L'interview.
Moisseline Hatalet-Essanos, Jacques Pomereau, vous revenez tout juste de Dreamforce, ce grand rendez-vous mondial. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année en termes de tendance peut-être? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Si vous pouvez partager avec nous un petit léger compte-rendu des vraiment faits marquants et hot topics.
Alors absolument, donc Dreamforce c'était à San Francisco la semaine dernière, l'événement international organisé par Salesforce, grand éditeur, des dizaines de milliers de participants. J'ai trois choses m'ont marqué.
Que vous connaissez je pense, Salesforce.
Je connais très bien, j'y ai travaillé moi-même. trois choses m'ont marqué. La première c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui a largement dépassé la phase de test, d'essai et passe maintenant à l'échelle. C'est-à-dire que on a des grandes entreprises, je pense à Adecco, je pense à des banques, je pense à des entreprises américaines et européennes qui ont montré à quel point ils utilisaient l'intelligence artificielle au quotidien sur des milliers de collaborateurs pour transformer leur métier. Première tendance. Deuxième tendance, on est passé de l'intelligence artificielle générative, disons classique, comme votre ChatGPT par exemple, où vous posez des questions, à une intelligence artificielle agentique. C'est-à-dire que aujourd'hui, un employé est augmenté par un agent. Un agent, c'est une intelligence artificielle qui effectue des tâches pour vous sans même vous le demander, qui va gérer votre budget marketing, qui va avoir une conversation avec vos clients au téléphone, alors que vous n'êtes même pas au courant que cette conversation a lieu. Les usages sont nombreux, mais c'est aujourd'hui à l'échelle. Troisième tendance...
Une petite parenthèse sur cette agence, justement, ça peut faire peur comme ça, mais c'est comme quand vous gérez une entreprise. J'imagine que vous n'êtes pas au courant à chaque seconde de tout ce que des salariés du groupe, vous êtes dans 19 pays, il me semble, donc sont en train de faire. Donc,
exactement.
Mais raconter comme ça, ça peut éventuellement faire peur, mais en fait, on le fait au quotidien. Les grands managers, en tout cas, le font aujourd'hui au quotidien.
On le fait et le travail avec des agents, c'est le travail du futur. C'est-à-dire que chaque employé, chaque collaborateur, chaque dirigeant aura qui travaille pour lui des agents, des multiples agents qui effectuent des tâches. Vous pourrez imaginer quelqu'un qui analyse vos emails et qui répond à vos emails pour vous, qui vous met en avant seulement certains qui nécessitent votre attention. Vous pouvez imaginer des agents qui font des achats à votre place, etc. Donc ça, c'est la deuxième grande tendance. La troisième tendance, c'est aujourd'hui une prise de pouvoir, j'ai envie de dire, des fournisseurs d'infrastructures cloud et IA sur les éditeurs de logiciels cloud. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et ça se voit dans les cours de bourse d'ailleurs des uns et des autres, il y a des investissements massifs, colossaux, en centaines de milliards de dollars qui ont lieu dans les infrastructures cloud et les réseaux d'énergie qui sont nécessaires pour les alimenter. Et beaucoup de valeur est créée par là. En revanche, les éditeurs de logiciels, de SaaS notamment, de logiciels dans le cloud, dont le business model c'est de prendre des bases de données, puis de les analyser, de vous présenter ces données de façon utilisable, beaucoup de gens se disent, notamment les analystes financiers, quelle est la pérennité de ce modèle? Parce qu'au final, un agent peut faire la même chose. Imaginez une base de données comptable. Vous pouvez simplement avoir un agent à qui vous posez des questions, quel est le bilan de ma société, quelle est la santé de ma société, sans passer par un logiciel très complexe qui présente ces informations à votre équipe financière. Donc ces trois tendances, moi, m'ont marqué, mais celle que je retiens, c'est vraiment l'accélération. On a quitté la phase de test pour être dans la phase de déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle dans des grands groupes, dans des entreprises de taille moyenne, et ça, c'est un signe qu'il faut accélérer.
Justement, ça allait déjà très très vite, alors là, c'est vitesse grand V.
Ce qui m'a obsédé, vous savez, pendant mes vacances, c'est que j'étais en train de bronzer, et je savais que pendant ce temps, dans la Silicon Valley, il y avait des développeurs qui faisaient ce qu'ils appellent « build », qui construisaient des choses. Et je me suis dit, j'ai un peu culpabilisé de me dire « ça se passe en ce moment ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon équipe de me préparer une heure de formation tous les jours. Je faisais sport, formation à l'IA tous les matins de mes vacances parce que je veux absolument pas rester en arrière.
Je ne crois pas assez bien dire. Alors, ce que je retiens d'une interview que je viens d'avoir avec le Head of Engineering de Google, Ahmed Zitouni, qui se trouve qui est tunisien, donc on a profité de son passage en Tunisie. Alors, deux choses. Il a dit que dans son équipe, bon, il est le père de l'algorithme, par exemple, du nouveau Google Search avec toute cette partie IA. Et donc, il a parmi les meilleurs ingénieurs, je pense, qui sortent des meilleures universités. Il s'est pourtant payé le luxe, entre guillemets, de dire aujourd'hui, ils sortent fraîchement des plus grandes universités et au bout de quelques mois, on est déjà obligé, dès qu'ils arrivent, de les recycler, de les former à ce qui a déjà évolué. Bon, c'est normal, vous allez me dire, ils sont top top de la technologie là où ils bossent. Deux, il a dit, parce que tout à l'heure, on reçoit des commentaires d'auditeurs et ça fait peur un petit peu. Hein, ces agents vont remplacer des métiers et tout ça. S'il y a une autre chose que je retiens de l'interview avec lui, c'est qu'il avait dit, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain, mais l'humain qui maîtrise l'intelligence artificielle va certainement, par contre, remplacer celui qui la maîtrise pas. Et je ne sais pas qu'en pensez-vous? Parce que là, tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y a des agents qui vont remplacer déjà 4-5 métiers.
Alors, je suis totalement d'accord avec sa façon de résumer la situation. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir une compétence, une capacité à utiliser l'intelligence artificielle, parce que dans les 3, 4, 5 années à venir, quasiment tous les métiers vont être révolutionnés en partie. Et il s'agit d'une question de productivité individuelle. Si vous savez prompter, si vous savez utiliser des agents pour vous, ben, vous faites le travail de 3 personnes. En revanche, si vous ne savez pas, vous faites toujours votre travail d'une seule personne. Donc, c'est essentiel de se former, d'apprendre. Moi, vous voyez, j'ai des enfants qui ont 14 ans. Et toute la question, c'est quel métier pour demain? Et je pense que tellement de choses vont changer. Par exemple, le code. On n'a plus forcément besoin de savoir coder maintenant, puisque les agents le font pour vous. En revanche, il faut savoir comprendre les besoins de ses clients, avoir des idées, avoir de la créativité, savoir avoir un esprit critique. Et donc le sujet, c'est de former son cerveau au monde de demain. Et puis très très concrètement, aux gens qui me demandent, voilà, tu es un professionnel de la technologie, qu'est-ce que je peux faire? Quel est ton conseil? Je dis, eh bien, demande à ChatGPT ou à un autre outil, à Copilot ou autre, de te faire un parcours de formation. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est remarquable. Ces outils permettent d'apprendre des langages, permettent d'apprendre la technologie et vous font des parcours didactiques de formation personnalisés.
Alors, à croire que vous avez écouté l'interview, mais c'est ce qu'il disait à l'équipe présente au studio ce jour-là. Il leur a dit, dans votre domaine, en parlant de ça justement, pouvez-vous perfectionner, utiliser l'IA à votre avantage? Parce que c'est, on le redit encore une fois, du moins c'est ce qu'il dit, que c'est ceux qui maîtrisent l'IA qui vont peut-être remplacer ceux qui ne la maîtrisent pas. Mais ce n'est pas forcément l'IA en soi qui va prendre la place des hommes. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. Alors vous, dans votre groupe, enfin dans Inetum aujourd'hui, comment vous traduisez concrètement ces grandes tendances que vous venez d'évoquer, celles que vous venez d'évoquer donc qui ont été traitées à Dreamforce ou les autres, hein? Donc comment vous le faites au quotidien? Quel travail vous effectuez à ça? Quelles sont vos priorités? Et
Ah,
comment vous traduisez ça pour vos clients?
je vais prendre une minute pour réexpliquer notre métier à vos auditeurs. Donc,
Ouais.
Inetum,
On aurait pu commencer par là.
c'est une entreprise de services numériques de 28 000 salariés dans 19 pays. Alors, c'est quoi les services numériques? Je vais illustrer. Quand vous avez une IA, un chat GPT sur votre téléphone, vous pouvez lui poser des questions, mais il n'a pas accès à vos données d'entreprise. Et nos clients nous disent, voilà, moi je voudrais que l'IA dans mon entreprise utilise mes données financières, de stock, de vente, puisse parler à mes clients. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut en fait, entre guillemets, brancher l'IA sur vos bases de données, sécuriser tous ces échanges pour pas que vos données d'entreprise nourrissent et entraînent l'IA qui peut bénéficier à tout le monde, et mettre à jour parce que ça évolue extrêmement vite. Donc ces métiers, ce qu'on appelle des services numériques, c'est ce qu'on fait. Et avant l'IA, on n'a pas attendu pour faire ce genre de métier. En Tunisie, par exemple, on a multiplié la taille de notre équipe quasiment par 10 sur quelques années. Et on est maintenant devenu en Afrique du Nord les leaders dans les technologies comme SAP, le fameux logiciel de gestion SAP, numéro 1 sur la zone, c'est Inetum. Sage, qui est un autre éditeur de logiciels important, ou Salesforce. Et donc, ça veut dire que les tendances, c'est la digitalisation, la numérisation des entreprises et du secteur public. Et donc nous, on est là pour les accompagner au plus proche de nos clients. Je résumerai en disant, notre métier, notre leitmotiv, c'est d'obtenir de l'impact digital, mais plus vite, plus simplement, et on rajoute pour le bien de tous.
Alors, très rapidement, l'IA aujourd'hui est au cœur des politiques industrielles, des stratégies d'investissement, mais également des débats sur la souveraineté numérique. Alors, comment vous voyez l'équilibre entre innovation aujourd'hui, souveraineté, régulation dans le contexte actuel? Et puis, cette course à l'IA générative, elle va peut-être accentuer un risque, elle accentue des fractures économiques aujourd'hui dans le monde, au sein même de pays également. Alors, de par votre expérience, et vous avez dû traiter ce sujet, enfin, dans son ADN, peut-être pas sur la question de l'IA, mais sur la question du cloud, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est à peu près là, peut-être, hein, je fais des raccourcis, mais on retrouve la même philosophie, les mêmes débats un petit peu à chaque fois. Et donc, comment tout ça va se passer et qu'apporte Inetum dans ça?
Alors, nous opérons dans un cadre réglementaire et législatif qui dépend des pays.
Inetum.
On a en Europe le GDPR, IA Act, etc. En Amérique latine, c'est un cadre différent. Ici, encore un autre cadre. Et en général, c'est le régulateur, le législateur, qui définit les bonnes conditions éthiques, de souveraineté, d'utilisation des données personnelles. Nous, notre métier, c'est dans ce cadre, dans ce terrain de jeu, d'aider les clients, les entreprises, à mettre en place leurs projets numériques. Alors, votre question porte sur la souveraineté et le besoin de régulation. Je dirais que il faut trouver pour les régulateurs le bon équilibre entre le Far West, où tout est permis et il n'y a aucune règle, avec des potentielles dérives éthiques, notamment des biais, de la désinformation, etc. Et une surrégulation, un principe de précaution, qui lui, à l'inverse, fait hésiter tout le monde avant pour pas faire de bêtises, et ralentit à la fois la transformation de son tissu industriel, mais aussi l'innovation. Ce que vous voulez éviter, c'est qu'une start-up brillante se dise, tiens, moi j'ai une super idée, ben, je ne vais pas la faire ici à Tunis, je vais aller la créer dans un autre pays, à San Francisco ou autre, parce que c'est moins régulier. Il faut trouver le bon équilibre. Moi je pense que le principe d'interdire certains usages de l'IA, par exemple, ne pas faire de désinformation. Ne pas créer des fake news, ne pas exploiter les données personnelles de façon non éthique ou qui pourrait être létale, par exemple, dans le cadre de cybercriminalité ou autre. C'est plutôt une bonne chose d'interdire ce genre de choses. Mais à l'inverse, surréguler et mettre des critères de souveraineté trop stricts, et ben vous ralentissez beaucoup trop à l'heure de la course au développement technologique, vous ralentissez votre économie. Souveraineté, par exemple, c'est faut-il des centres de données dans mon pays? Est-ce que toutes mes données doivent rester dans mon pays? Moi, je pense pas. Je pense que à l'heure où des dizaines, des centaines de milliards sont investis dans des centres de données IA à des tarifs faramineux, si chaque pays essaye de faire la même chose, ça sortira jamais de terre à temps. En revanche, il faut distinguer dans ces données lesquelles doivent être souveraines, lesquelles peuvent aller dans des clouds publics, et dans tous les cas, avoir des solutions de cryptage et de contrôle de qui a accès à mes données, en fait.
Vous voyez sourire, bon, il faut bien préparer le coup, mais je pense que la Tunisie, par contre, peut être un pays qui pourrait accueillir les données de tout le monde. Je leur dis, c'est un petit peu la Tunisie peut être la Suisse des données. Donc voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, vous connaissez très très bien notre continent, notre région, pour avoir supervisé dans certaines entreprises par lesquelles vous avez évolué dans le passé et aujourd'hui, comme ça fait penser par exemple vos fonctions, Sainte Veritas et services, etc., au gouvernement. Donc c'est vraiment des questions que vous connaissez très bien. Alors, pensez-vous aujourd'hui que des économies émergentes peuvent tirer parti de l'IA pour accélérer le développement, ou est-ce qu'elles vont plutôt être en situation, elles vont subir plutôt les effets, ça va aller tellement vite que voilà. Et concrètement, moi ce qui m'importe, c'est cette partie de la question, concrètement comment vous, aujourd'hui Netom, vous pouvez contribuer à faire émerger des compétences, des projets IA spécifiques à ces régions pour en tirer au maximum un profit.
Alors
Ne pas subir, mais agir.
la réponse est oui. Je garde en tête des souvenirs d'incubateurs de start-up au Kenya, ou au Nigeria que j'ai visité avec des talents remarquables, des jeunes brillants qui s'étaient formés dans des technologies vraiment de pointe et qui construisaient des applications de ces nombreux pays. Je pense que dans un pays comme la Tunisie, avec plus de 12 000 talents numériques formés chaque année,
que vous connaissez très bien, et Netto est présente ici depuis longtemps, je pense, parmi les premiers
On est présent ici depuis longtemps, on recrute beaucoup ici, on va continuer à recruter, c'est un pays assez stratégique pour le groupe. Et donc les talents, non seulement sont jeunes, ambitieux, veulent se développer. Une chose qui me tient à cœur, c'est qu'on a 45% de femmes dans nos effectifs, donc c'est vraiment toute une population jeune qui se forme et se maintient formée. Aujourd'hui, c'est l'IA, mais avant, c'était le cloud, c'était la cybersécurité. Donc il y a énormément à faire. Votre question, comment est-ce que ça peut créer de la richesse pour le continent? De deux choses. Premièrement, les startups peuvent se développer aujourd'hui avec finalement peu de capitaux propres. On n'est pas obligé d'avoir son propre data center pour avoir une brillante idée et commercialiser un modèle basé sur l'intelligence artificielle ou le software. Deuxièmement, c'est le tissu économique, gouvernemental, mais aussi du secteur privé, qui peut vraiment beaucoup bénéficier de ces gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. On sait ici, par exemple, qu'il y a beaucoup de call centers qui existent en Tunisie. Eh ben, avec de l'IA agentique, la capacité de ces call centers à être ultra compétitifs, à gagner des parts de marché et donc créer de l'emploi, c'est leur opportunité. Mais c'est juste un exemple parmi de nombreux exemples. Dans notre secteur à nous, qui est le développement, la mise en place d'applications, on voit la Tunisie avec deux missions. Première mission, c'est adresser le marché tunisien. Et là, tous les clients qui veulent se moderniser, bénéficier de toutes ces technologies, on est là pour eux. Deuxième mission, c'est fournir des compétences basées ici pour nos clients européens francophones. Et là aussi, on a un très fort développement avec des expertises, comme je le disais, SAP, Salesforce, Sage et d'autres plateformes qui sont basées en Tunisie.
Et c'est normal, donc on retrouve beaucoup d'investissements dans les talents, la formation, l'éducation numérique, donc surtout ici sur le site tunisien
Absolument.
et sur le capital humain ici en Tunisie.
Quasiment tous nos collaborateurs ont été formés à l'intelligence artificielle. 80% d'entre eux sont certifiés dans d'autres technologies en plus. Et c'est un investissement constant, parce que comme vous le disiez, hein, les compétences dans ce domaine doivent se renouveler de façon très régulière.
Pour terminer, alors, quels sont vos grands objectifs aujourd'hui pour Inetum en Tunisie ou dans la région, à court terme, moyen terme, long terme?
Alors,
pas forcément étroit, vous pouvez choisir, vous pouvez plutôt parler moyen terme, on choisit le milieu.
Quand j'ai pris les rênes du groupe il y a 2 ans et demi, j'ai fait une revue stratégique de nos, à l'époque, 27 pays. J'ai décidé de vendre un certain nombre d'activités et de conserver la Tunisie parce que j'y voyais un potentiel très stratégique pour le groupe, pour cette raison de talent et de localisation. Donc, pour répondre à votre question, mon ambition pour la Tunisie, c'est de continuer de croître à notre vitesse, qui est de 20 à 30% par an, donc d'embaucher, donc de former des talents et de spécialiser sur les technologies que je vous disais, notamment SAP et Sage, et de continuer avec notre proximité, nos différents sites ici, adresser nos clients locaux. Parce que tous les chefs d'entreprise que je rencontre en ce moment ont des ambitions fortes de modernisation, d'expansion internationale, et bien on est là pour eux.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos
C'était un
questions ce
plaisir.
matin. Jacques Pomereau, je rappelle PDG de Inetum, et puis à très vite.
Merci beaucoup.
Bravo pour
Bonne
tout ce que
journée.
vous faites, en tout cas en Tunisie. On en sait un petit peu plus, mais ce qu'on voit ailleurs aussi, c'est très bien. C'est un groupe qui vraiment contribue à cette transformation, à ce qui est en train de se passer dans le monde, et on en a besoin. Merci beaucoup. Tahiel Kol Mostaminak, la deuxième madame Sinetili, qui était là il y a quelques instants, qui en est la PDG pour la Tunisie, madame Saleh Ben Armal et toute l'équipe. Voilà, tous ceux qui ont contribué à tout cela.